Souvenirs de radio sur RDIWA 107.5.
Souvenirs de radio sur RDIWA 107.5 FM.
Souvenirs de radio sur RDIWA 107.5.
Bonjour à toutes et à tous. Samedi 22 mai, je me suis rendue sur la petite colline Zinzine, aux abords de Fort Calquier, dans le département des Alpes de Haute-Provence, à la rencontre des acteurs et actrices de Radio Zinzine. Il et elle organisaient une journée portes ouvertes où nous pouvions visiter les locaux, rencontrer l'équipe, discuter et débattre de la place de la radio dans notre société. Merci à Florian et Alex pour la petite visite. Merci à celles et ceux qui font la radio. Je regrette de ne pas pouvoir vous laisser entendre toutes les autres. Perdues sur les ondes, j'avais laissé sur terre ma carte SD. Bonne visite. Voyage chez Zinzine sur RDIWA 107.5.
Là, on entre dans l'encre de Radio Zinzine Liman, dans un studio au-dessus de la colline Zinzine, c'est le nom de la radio. Et donc là, on est, on va dire, dans le premier patio où on peut admirer à la fois une cabine qui est ouverte, qui permet d'avoir des avantages comme des inconvénients, on y reviendra avec la technique. Et en tout cas, là, on a une belle table qui n'est pas ronde, mais rectangulaire. On a envie d'en avoir une ronde dans le réaménagement des studios, avec ces quatre micros vert, jaune, rouge et noir, et où là sont accueillis les animateurs, animatrices de la radio, plus les invités pour les informations quotidiennes, pour les tables rondes, pour les émissions thématiques. Et on est entouré d'une... On est encore très conservateur, entre guillemets, avec les vinyles, dont Momo qui fait son émission Les Chansons d'hier et toujours, aujourd'hui, ce samedi, utilise encore beaucoup. On a encore une platine vinyle. Et là, on est accompagné de plein de vinyles qui sont classés par auteur et par style. Voilà, avec quelques portraits.
Et est-ce qu'il y a des gens ici qui viennent et qui piochent, à part cette personne-là, qui peuvent venir ici et piocher pour se composer une émission musicale?
Donc, c'est clair qu'on est passé... On en causait tout à l'heure à la table ronde, à l'ère numérique, donc on utilise l'USB, le MP3 comme d'autres. Mais en tout cas, on est encore utilisateurs et utilisatrices des différents formats, on va dire. Donc le vinyle, moi j'en utilise encore un peu. Après, je trouve qu'on n'a plus qu'une platine, donc c'est un peu dur à jongler. J'ai encore un appel à notre technicien d'avoir d'autres platines. Mais le vinyle, on a toute une série de CD qui est aussi autour de la technique qu'on va monter après. Et on avait même des cassettes audio de l'époque. Mais en tout cas, les vinyles sont encore utilisés par plusieurs animateurs et animatrices. J'ai cité Momo pour les chansons d'hier et toujours. Il y a Outé pour le jazz. Il y a moi sur des émissions, on va dire, plus éclectiques, rock et autres, où on peut venir piocher, là, comme tu dis, dans les vinyles qui sont à la radio, mais aussi amener les nôtres, si on en a encore à la maison.
Est-ce que tu crois que tu peux me décrire un peu cette partie? Parce que c'est assez c'est étonnant. Enfin, en tout cas, la radio, elle est placée à un endroit assez étonnant.
Ouais, c'est une ancienne tour. Je ne sais pas si c'était un pigeonnier, il faudrait demander aux personnes qui étaient là au départ, mais ça fait une grande tour en pierre qui a été retapée à l'arrivée sur cette coopérative, parce que la radio fait partie d'une coopérative qui s'appelle Longomaille, qui est là depuis 73, et la radio existe depuis 81. Et donc là, on est toujours dans le patio du bas, avec un petit poêle à bois qui a du mal à nous chauffer, mais que... On va peut-être regretter, mais on est en train de construire une chaufferie à côté, mes petits poêles à bois avec, tout ce qu'il y a à aménager, le petit conduit et le bois qu'on ramène de l'extérieur pour chaque hiver. On commençait au mois de mai, fin de l'hiver, mais on chauffe sur plusieurs mois en tout cas.
Il neige ici ?
Ça arrive qu'il y a de la neige, ouais, sur la colline. Par certains moments, et là on a du mal à y monter. On peut toujours y monter à pied, mais le chemin de voiture, sentier de voiture, est un peu cabossé.
Par rapport à tout à l'heure, du coup, dans la discussion, vous disiez qu'il y avait quelqu'un avant qui restait là tout le temps. Enfin, c'était la personne qui gérait la technique, et s'il y avait le moindre souci, il était sur place.
Ben moi, j'ai commencé la radio, pas du tout au début, je me suis formé à la radio à Zinzine en 2007, donc ça fait une petite quinzaine d'années, c'est pas si vieux, on va dire, par rapport aux 40 ans qu'elle a cette année en 2021. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, on faisait des permanences, quoi. Donc il y avait une personne qui venait là à 9h le matin jusqu'à 14h, après il y avait un relais 14h, 18h, et après il y a quelqu'un qui arrivait pour les infos 18h, 21h, et qui restait souvent jusqu'à minuit, où il fallait qu'on relance la rediffusion d'infos, parce qu'on n'avait pas, c'était le jour suivant, et il fallait avoir une main manuelle, quelqu'une pour l'envoyer. Et il y a quelqu'un souvent qui dormait à la radio, moi ça m'est encore arrivé il y a 15 ans en arrière. Après maintenant, avec les logiciels qu'on peut gérer à distance, maintenant on peut envoyer notre programmation depuis l'extérieur, donc il y a en tout cas une permanence tout le temps de 18h à 20h pour l'équipe qui fait les infos quotidiennes à présent, mais ça peut que pendant 24h il n'y a personne à la radio. Moi j'essaie de continuer ça, les vendredis on essaie d'être là avec Constance pour la programmation musicale, qui est une autre animatrice, et puis les annonces culturelles, parce que les auditeurs et auditrices nous le disent aussi, quand il n'y a pas de présence physique à la radio, ça s'entend et ça change aussi le ton est donné.
Ça va si on fait un petit tour ? Ça va si on fait un petit tour ?
Ah oui, non, mais pas de problème.
Tu peux me présenter le personnage ?
Et bien là, c'est Momo qui fait son émission Les chansons d'hier et de toujours. C'est la chanson française. Dans toutes ses coutures, on va dire, depuis 25 ans. C'est un des plus anciens, je pense, animateurs, animatrices, qui fait partie de Zinzine et qui n'habite pas sur la coopérative de Liman. C'est-à-dire qu'on est, je sais pas, peut-être une trentaine ou 35 sur le studio de Liman. Et beaucoup de gens habitent sur la coopérative de Longomaille. Mais on est quelques-uns, 4-5 au moins, à être habitantes à l'extérieur, à Fort Calquier, Manosque et ailleurs. Et donc là, on est sur la partie, on est monté d'un petit étage, on est sur la partie technique, là où Momo agit actuellement, avec une table de mixage basique, un logiciel qui, juste pour pas pour rentrer dans les détails techniques, mais qui, c'est un logiciel assez spécial, l'OAT On Air, qui a été créé par une personne qui militait dans les radios libres dans les années 70, qui a été créé spécifiquement avec les critères et les besoins de Radio Zinzine. Alors, il commence à être un peu âgé, je pense qu'on va le remettre à jour, mais voilà, il a cette spécificité d'être un logiciel libre, avant qu'on parle des logiciels libres depuis une dizaine d'années de manière plus conséquente. Et voilà, autour de la technique, pour les gens qui ne peuvent pas voir, on est entouré là de... On a passé les vinyles au demi-étage et là on est entouré par les différents CD qui sont triés par ordre alphabétique, francophone, anglophone et sinon par pays et par style de musique, jazz, musique classique et autres, musique du monde on va dire.
Ça prend bien deux murs, un peu plus.
Alors, on a fait un gros tri, hein. On en avait beaucoup plus avant, on a fait de la place pour en avoir aussi des nouveaux et tout et... Et voilà, et sinon dans notre ordinateur, on a aussi une base de données avec plein de musique. Et après, les animateurs d'émissions musicales pardon, ramènent leur musique avec leur propre fond aussi, ou les propres nouveautés.
Et cette trappe, elle met nous ?
Bah, on peut monter, on va voir. Là, comme je disais tout à l'heure, on est un peu dans une tour avec quelques petites fenêtres à chaque étage. Et donc là, on était au demi-étage et étage, on va dire, duré. Et là, on passe un peu au premier étage. Et là, il y a un petit peu un autre fond de vinyle de réserve. Avant, il y avait tous les enregistrements des premières enregistrements radio qu'on avait sur cassette. Le fond n'est plus là. On va dire il y avait un petit peu les archives. Puis il y avait un lit, justement, quand on dormait à la radio, comme je disais tout à l'heure, où les gens pouvaient venir se poser. Là, voilà, en passant une petite trappe, comme tu le disais, et via une échelle.
Et ces archives-là, vous avez pu les conserver, les numériser, peut-être ?
Il y en a qui ont été conservés comme ça, de ce que je me rappelle. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on a fait un échange avec plein de petites anecdotes sur les 40 ans de la radio pour une compile là, qui se prépare. Et je me rappelle que le technicien a dit oui, il y en a qui ont été numérisés et on n'a pas les archives depuis le début. Et je ne sais pas depuis quelle partie, je crois depuis les années 90, il y a les archives qui ont été conservées, mais on ne peut pas remonter à tout. Et sur le logiciel actuel, je sais qu'on peut aller chercher les émissions depuis les années 2000, quoi. Voilà. Moi, il y a plein de choses que je ne connais pas aussi, hein, de toute la première partie de 80 à 2000, j'y ai fait un peu partie, donc faudra aller chercher les informations vers les personnes historiennes ou archivistes de Radio Zinzine. Il y en a.
Pour la fête de la radio, vous comptez faire quelque chose ? Est-ce que cette journée-là, elle fait partie de la fête de la radio ?
Non, elle fait pas partie. Donc chaque année, on a justement cette fête de la radio, comme tu dis, qui est une fête de soutien, mais aussi une fête pour s'amuser ensemble et tout, mais qui est un profond pour ramener souvent de l'argent, on fait des bénéfices et c'est une partie de notre financement à l'année, avec souvent une soirée avec trois concerts, avec à manger, à boire, et ça va jusqu'au petit matin où on danse dans l'amphithéâtre de la coopérative de Grangeneuve, qui est un lieu assez sublime. Pour les gens qui ne connaissent pas, avec vue sur la montagne de Lure. Et donc cette année, on va avoir, et on ne sera pas un jour, mais deux jours. Donc elle a lieu toutes les années, le premier samedi de juillet. C'est un peu fixe depuis des années, peut-être depuis le commencement même. Et cette année, ça sera sur deux jours. Alors avec une journée, le samedi, comme habituellement, trois concerts. On ouvre à 16h. Le bar, restauration sur place. Un espace dédié aussi de jeux. Trois concerts et de la musique toute la nuit, après avec des DJ. Et la veille, il y aura un apéro goûter, un petit spectacle plutôt familial et un concert. Et on fermera les portes plus tôt, vers 2h. Mais voilà, sur deux jours, le 2 et 3 juillet, je crois, ou le 3 et 4. Le 2 et 3, je crois. Donc voilà. Et les journées comme aujourd'hui, c'est des journées portes ouvertes. Ça, c'est un autre événement qu'on fait à l'année, depuis plusieurs années. Alors, on n'a pas pu en 2020, mais comme la fête. Et c'est l'idée de pouvoir faire découvrir la radio à des gens qui sont proches, qui n'ont jamais eu l'occasion de venir, ou plus loin. et de passer un moment convivial ensemble, alors avec un moment radio, avec une visite de la radio comme on fait maintenant, avec un petit débat comme on a eu tout à l'heure, voilà, pour permettre aux gens de casser le mur, on va dire, entre la radio et les auditeurs, auditrices, ou non-auditeurs d'ailleurs. Voilà, il y a... Et puis voilà, il y a une assemblée annuelle qui se fait pour les auditeurs, auditrices aussi, pas que pour les adhérents. Voilà, c'est un peu les trois moments publics, on va dire, qu'on fait avec la radio.
Et là, tu peux encore monter ?
Ouais, on va encore monter jusqu'à la cime.
Si j'y arrive.
Tu veux y aller ?
Voilà, juste pour ne pas perdre les auditeurs et auditrices, on a un demi-étage et c'est pareil, c'est un lieu de stockage et tout. Et là, on arrive sur la cime de Radio Zinzine.
C'est lui qui l'a ramené.
Ça va, toi ?
Parce qu'il vient perturber ?
Ouais.
C'est cool.
Ouais, je suis venue.
Mais non, t'es
venue ? Ouais, je suis venue faire un petit tour.
Ah, t'étais
rencontrer...
aux patates ?
Ouais.
J'ai vu aux patates. Elle était avec son petit.
Ouais.
Aux
pommes
de terre. D'ailleurs, nous, on a une patate qui a germé.
Mais ouais, c'est le marqueur.
Du coup, j'étais interceptée par vous. Là, j'ai même pas vu la vue incroyable.
C'est terrible. C'est terrible, franchement.
Ouais, bah, tu peux commenter toi-même, là. On arrive avec Alice.
Tu as deux animatrices radio là aussi.
C'est vrai. Ouais. Mais pas les films raconter un peu de qu'est-ce qu'on voit vu d'ici.
Ah, pas mal.
Ben on voit de la neige.
Des gens,
un village,
des arbres. On voit beaucoup d'arbres,
beaucoup de nature.
Des arbres.
Et on voit presque, on voit à 360 degrés. Non. En hiver.
Ouais, voilà, pour vous dire, c'est un peu un toit plat au-dessus de cette tour Zinzine. Et depuis, c'était pas depuis le départ, mais où a été créé un toit. Moi, il me semble que quand je suis arrivé il y a 15 ans, il n'y avait pas de toit. Et maintenant, là, on a un petit toit là, en bois et tôle qui permet de couvrir et aussi pas avoir de moins de fuite et d'humidité à l'intérieur de la radio. Et pour vous dire, voilà, je pense que les jeunes animatrices de Zinzine vous ont indiqué, on a une superbe vue sur le plateau de Fort Calquier d'ailleurs. Je ne suis pas très fort en géographie, donc je ne me rappelle plus les villages exactement, les montagnes. Et il faut dire que Zinzine, même si moi je racontais des conneries quand j'étais au Mexique sur d'autres radios communautaires, c'est pas le féminin de Zinzin, mais c'est vraiment le nom de la colline. Donc Zinzine a pris le nom de la colline existante là où on est ici présentement.
J'imagine que c'est un peu un endroit aussi où les gens ils peuvent venir se poser, s'inspirer peut-être.
Ouais, moi je venais m'y reposer, je venais prendre un peu l'air avant qu'il y ait le toit. Là j'y monte moins souvent, que des fois quand on fait des visites et tout. On n'y monte pas régulièrement, on ne peut pas dire que ça soit hyper non plus huppé, mais c'est un endroit ouais, pour respirer quand même, comme tu dis.
Je vais aller chercher, comment tu les as appelés tout à l'heure ?
Les historiens, les archivistes.
Les historiens archivistes de la radio. On s'en va.
Ouais, littéralement.
C'est un peu notre moment de pèlerinage ici, en fait, quand on vient, toutes les journées portes ouvertes, quand ça fait 4-5 ans qu'on vient, tu vois. Et à chaque fois,
t'enregistres.
Et donc, on vient tout le temps avec les filles. En fait, elles grandissent. Et donc, au début, on les portait et tout. Et maintenant, elles sont contentes parce qu'elles y arrivent toutes seules à monter.
Oui, mais pas à descendre.
Pas à descendre, ouais. Mais c'est un lieu important pour nous, voilà. On a connu la radio d'abord par ici.
Par les passants.
Voilà, je suis arrivée sans personne.
Tiens-toi bien quand même, hein, tombe pas.
Ouais. Bah d'ailleurs, on parlait du côté artisanal, tout ça de la radio, tu vois, là, t'as le côté artisanal, c'est-à-dire tu vois l'antenne. Et quand elles étaient petites, c'était important de savoir d'où ça partait le son. Et donc, c'est quelque chose d'ancré pour elle, tu vois. C'est le son de là où ça partait, ce qu'on entendait à la maison. Donc après, quand il a participé, c'est « waouh, ouais, ça part de l'antenne qu'on a vue », tu vois. Donc, il y a un ancrage.
Oui, tu fais bien de préciser, c'est où il y a l'antenne, hein, on ne l'a pas dit pour les auditeurs.
Ouais. Mais alors, il paraît que l'antenne ne marche plus, c'est ça ?
Apparemment, elle est un peu plus loin maintenant. C'est Marc qui vient de nous dire ça, que ça ne marche plus, que... On est déçus, on vient d'apprendre.
Ouais, mais ça restera un lieu de pèlerinage.
Ouais, c'est pas grave, on leur dit pas. Ouais. Comme le Père Noël, on leur dit pas, peut-être.
Non, mais elles ont entendu.
Ah, il est là.
Est-ce que...
Le boss.
Que...
T'as besoin de ta carte.
Big boss.
Pardon.
Alors, Alex, elle marche plus, cette antenne, c'est vrai, c'est ça ?
Cette antenne, non, elle marche plus. Avant, on la faisait marcher avec la cloche.
Bon, et cette cloche, alors, c'est quoi l'histoire, là ? Ça va ?
L'histoire de la cloche,
ben
c'est...
Oui.
Attends, c'est une cloche qui s'ennuyait dans une chapelle abandonnée.
Génial.
Là où on faisait une coupe de bois. La chapelle était à moitié en ruine, mais il restait la cloche.
Et pourquoi vous ne l'avez pas fixée jusqu'au bout alors ?
On l'a fixée, elle a fonctionné pendant un moment. Et elle servait à sanctionner l'achat des pierres, symboliquement l'achat des pierres du bâtiment quand on l'a construit en 84 ou 85. Je sais plus. Et donc c'est pour ça qu'il y a des initiales. Si vous regardez sur les pierres, il y a des initiales. Et c'est des initiales d'auditeurs, d'auditrices qui ont acheté la pierre symboliquement. Et donc, une fois qu'ils l'avaient acheté, on leur donnait un papier où on marquait qu'ils avaient le droit de jouir du regard sur la pierre, et pas plus. Et on le sanctionnait avec un petit son de cloche. Un rituel, quoi.
Et ça prend alors ?
Oh ben, je sais pas, on verra. Elle aura sûrement une seconde vie.
Il faudrait la refaire.
Elle nous survivra facilement. Ouais, je pense qu'on pourra l'attacher et tout. Et lui redonner une autre vie.
Moi, je me questionnais un peu par rapport au débat de ce matin.
Ouais.
J'ai pas pu venir.
Ouais.
J'étais assez curieuse de savoir qu'est-ce qui a été dit. Est-ce que tu crois que tu peux me prendre ça ?
Ben, c'est complètement arbitraire. Là, j'ai pas mes notes. Mais ce qui me reste à l'esprit, c'est qu'on a refait un peu un historique des radios libres avec les préhistoriques, on peut dire, c'est-à-dire avant 81, ceux qui avaient déjà démarré, surtout par rapport à des luttes sociales, en fait, comme Radio Lorraine, Cœur d'Acier, à Longwy, et d'autres radios comme Canu, à Lyon, d'autres radios historiques comme ça. C'était essentiellement lié à des luttes sociales, parce que c'était une période de remise en cause de l'industrialisation telle qu'elle se pratiquait pendant les Trente Glorieuses, en gros qu'on arrivait à la fin d'une période industrielle qui était accélérée par un libéralisme politique qui se mettait en place un peu partout en Europe. Et du coup, il y avait des luttes sociales importantes et, je sais pas, il se trouve que les moyens techniques étaient apportés de pas mal de militants et que des radios sont nées comme ça et que Mitterrand, qui en opposition avait été inculpé justement pour avoir participé à une radio pirate de l'époque, Radio Riposte des socialistes. Bon, dans ses promesses, en tout cas, parmi les rares qu'il ait tenus, qui se sont appliqués, il y avait la libération des ondes. Et à ce moment-là, ben, c'est le moment comme Radio Zinzine, tout ça a émergé. Donc ça, c'était... Un des repères qu'on évoquait, il y avait aussi toute la lutte des migrants, comment elle résonnait avec les radios de ces premières années, des années 80, notamment parce que c'est aussi le moment de la marche de 83, le moment où les associations d'étrangers ont le droit d'exister, puisqu'avant, ben, c'était interdit en fait. Donc il y avait aussi une résonance comme ça dans les radios. Et puis il y avait aussi les luttes écologiques, comme dans notre région, une association qui s'appelait Les Temps Nouveaux, qui était représentée aujourd'hui par un auditeur depuis cette époque-là, Hubert, qui défendait les temps de berre contre les déjections d'eau douce de EDF, qui neutralisait le lac, en fait, qui le désalinisait. Et du coup, ça posait un gros problème écologique. Et donc, on se faisait porte-voix de tout ça. Et on rappelait le contexte, c'est-à-dire un contexte où... Le monopole d'État était mis en cause, mais où, par ailleurs, il n'y avait pas grand-chose d'autre que les radios libres, justement, pour porter les voix contestataires, les voix indépendantes, ce qu'il y avait de nouveau. Donc, ce qui est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une profusion, on pourrait dire, de propositions. Donc, il y avait ça. Et puis, on a évoqué aussi comment ça a pu tenir, comment on a essayé de résister aux puissances d'argent, puisque, en fait, ça correspond à une parenthèse, la fin du monopole d'État, et puis ensuite, la seconde parenthèse va arriver quelques années plus tard, avec les investissements capitalistes dans tout ce qui émergeait de nouveau, donc aussi au niveau des radios libres, ce qui donne certains groupes comme Énergie,
d'investissement qui repèrent des bons animateurs et qui font des nouveaux projets commerciaux, quoi. Donc les radios associatives qui gardaient l'esprit indépendant et non commercial et associatif ont obtenu à ce moment-là, dans les années 84-85, qui est un fonds de soutien, c'est-à-dire une taxe prélevée sur les ressources commerciales des radios commerciales pour que, en échange d'avoir accepté, que, puisqu'il n'y en avait pas trop le choix, que la publicité puisse venir sur les ondes, que ceux qui ne veulent pas cette publicité puissent bénéficier d'un retour qui leur permette de faire face à ce nouveau rapport de force. Donc voilà, c'était un peu tout ça qui était évoqué avec plein d'anecdotes, parce que c'est aussi plein d'histoires personnelles, c'est aussi plein de connexions, de complicité et de mise en place de fédérations de radio libre qui reflétaient aussi les courants de pensée, donc à l'époque un peu aussi les guerres de chapelle entre les gauchistes de l'époque, quoi, trotskistes, communistes, enfin, ou de la gauche de manière générale, anarchistes, etc., Et aussi un peu des querelles d'ego et tout ça. C'était aussi beaucoup une affaire de mecs, hein. Ça, c'était aussi quelque chose qui était souligné. Il y a eu pas mal de femmes aussi engagées, mais nettement moins. Et justement, pour faire cette table ronde, j'ai eu un peu de mal à trouver des interlocutrices qui soient encore là, qui soient accessibles. Ça dénotait bien de ce déséquilibre aussi qu'il y avait à ce moment-là.
Et maintenant, tu penses que c'est un déséquilibre qui se
résorbe un peu? Ouais, je crois qu'il y a beaucoup plus de filles, mais je ne sais pas dans quelle mesure, ça serait à approfondir, dans quelle mesure il y a plus de filles, de femmes qui s'emparent maintenant des moyens médiatiques. Eh bien, ça, je ne sais pas vraiment. Ça serait à vérifier. En tout cas, c'est discuté, c'est clair que c'est évoqué, c'est clair qu'on y pense. Ça joue aussi dans l'expression, hein, dans la manière de s'exprimer, la manière de rappeler il et elle plus facilement qu'avant.
Toi, comment est-ce que tu imagines un peu l'avenir des radios libres ?
Ben, je l'imagine plus connecté, enfin, du point de vue technique, je l'imagine connecté avec différentes techniques, donc continuer de garder la modulation de fréquence, parce que je pense qu'elle a toujours un sens, qu'il y a des situations où ça reste plus pratique à écouter que, par exemple, les réseaux sociaux ou la consommation qu'on peut avoir sur des appareils pour écouter la musique ou quoi. Et que ça peut s'articuler avec les nouvelles radios numériques terrestres qui, elles, numérisent le son, mais ne le tracent pas, à la différence d'Internet. Donc ça, c'est intéressant, parce que le gros problème d'Internet, du point de vue des libertés, c'est que ça trace tout, et qu'on sait que les données vont être un objet de vampirisation commerciale et de contrôle social, politique. Donc la radio numérique terrestre, c'est intéressant de ce point de vue, et nous, on a mis un pied dedans sur Marseille, mais c'est pas encore très familiarisé pour l'instant. Ça commence seulement à être intégré dans les nouveaux postes qui se vendent. Il faudra encore des années pour que ça rentre vraiment dans les mœurs. Et puis articuler ça aussi quand même avec les plateformes Internet et tout, parce qu'on est obligé de tenir compte de la réalité. À partir du moment où on a des trucs à dire un peu décalés, un peu à contre-courant ou en contestation du mainstream, ça vaut toujours le coup de s'emparer des moyens existants, à partir du moment où on peut à peu près les maîtriser, les assumer. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a toujours, il peut toujours y avoir un avenir de ces radios. Et malgré tout, comme il y en a à peu près, il y en a plus de 500 hein, quand même à l'heure actuelle, des petites radios associatives ou commerciales, enfin pas commerciales, ou municipales, je veux dire, qui sont en dehors en tout cas des réseaux commerciaux, ça représente quand même toujours du monde, et je pense que je vois là à Radio Zinzine, il y a des nouvelles générations aussi qui se branchent, donc c'est que visiblement ça a quand même toujours un sens. Je pense aussi que ça joue dans le besoin d'oralité qu'on a. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux par définition. Il y a encore certains besoins auxquels ça peut toujours correspondre.
J'aurais bien questionné si toi tu étais là du coup à Radio Zinzine depuis un peu le début.
Ouais.
Toi t'as vu tout.
Ouais, moi je suis depuis le début, depuis le 3 juin 81. Donc le moment où c'était un peu une bouteille à la mer, où on s'expérimentait à parler, à apprendre à réfléchir tout haut, à échanger le plus clairement possible, en essayant d'éviter l'entre-soi, une tendance très spontanée qu'on peut avoir. Creuser les sujets dont on veut parler, à essayer de mixer les centres d'intérêt locaux, ceux des interlocutrices, interlocuteurs qu'on peut avoir dans le pays, et en même temps les amener vers nos fenêtres, à nous, nos centres d'intérêt qu'on a par ailleurs, puisque c'était quand même les gens de Longomaille, des gens de tout pays européen, des gens qui avaient un mode de vie un peu différent, qui vivent en autogestion. Donc tout ça, essayer de profiter de cette différence pour donner un son de cloche qui peut correspondre à ce point de vue-là, un peu indépendant, sans que ce soit pour autant la science infuse, mais que ça permette à donner un nom de son de cloche, quoi. Et donc ça, j'ai bien vécu ça, avec... ça nourrissait beaucoup aussi ma curiosité, le besoin... C'est un fantastique prétexte, la radio, pour rencontrer des gens, pour aborder des sujets, pour réagir à l'actualité avec le moyen d'aller voir directement les protagonistes de tel ou tel événement. Donc tout ça, c'était bien. C'était bien aussi de voir qu'on pouvait s'emparer de quelque chose qui était le privilège d'une certaine caste journalistique jusqu'alors. Tout ça, je l'ai bien ressenti, bien vécu. Et aussi l'apprentissage d'une forme de journalisme, parce que malgré tout, dans tout ce qu'on rejetait, il y avait aussi de la méthodologie, il y avait quelque chose à prendre. Il y a toujours quelque chose à prendre chez les professionnels qui sont vraiment expérimentés et consciencieux dans la méthode, dans la technique. Il y a aussi cet apprentissage-là qui m'a pas mal intéressé. Comment tu fais un interview, comment tu prépares un sujet, comment... Tu mêles les dimensions, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire à la fois recevoir l'écume des jours et les dépêches, et puis voir un peu ce qui est, par exemple, je ne sais pas, les derniers temps, il y a eu le conflit israélo-palestinien, comme on l'appelle, qui est quand même pas seulement un conflit israélo-palestinien, c'est palestinien, c'est aussi une occupation qui perdure, une colonisation de peuplement qui est une des dernières colonisations qui se pratique sur la Terre. Donc c'est aussi plus asymétrique qu'un seul conflit entre deux partenaires qu'on aurait tendance à mettre à égalité. Donc par exemple, ça, l'aborder à la fois par les dépêches quotidiennes, donc voir un peu ce qui se dit dans la presse. On ne peut pas être indifférent à un événement qui arrive comme ça, qui nous interpelle aussi un peu à travers notre histoire, hein, quelque part. Et l'approfondir avec des ouvrages qui peuvent inspirer confiance plus que d'autres, recouper avec des témoins de là-bas qu'on cherche, des journalistes, et si possible, un jour, un voyage. Quand on arrivait à mêler ces trois dimensions... la fréquentation du contexte, un voyage, la rencontre avec des acteurs, des témoins, des gens impliqués, et les lectures à la fois des informations et des ouvrages approfondis, là, tu as un sujet qui s'imprègne, qui t'entoie, et une fois que tu as fait cette démarche, il revient facilement, tu te remets facilement à jour. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai pas mal appris dans la pratique journalistique. Et aussi, tu es obligé de tenir compte. L'information toute nue, ce n'est pas suffisant. En fait, l'information, finalement, on se disait, on est indépendant et les autres, c'est les médias dominants. Ça, c'est un peu caricatural parce que tu es toujours un peu dépendant de quelque chose. Donc, certes, il y a une forme d'indépendance par rapport aux grosses dépendances qui sont les dépendances... de possession des médias par les grands groupes, donc des dépendances financières, des dépendances physiques, on pourrait dire. Il y a les dépendances de classe, puisqu'il y a effectivement la plupart des éditorialistes, comme l'avait bien écrit il y a longtemps, déjà Serge Halimi, ça devait être, je ne sais plus quand, en 97 peut-être, je ne sais plus, enfin les nouveaux chiens de garde, il expliquait bien comment tu as 40 éditorialistes qui font la pluie et le beau temps. Donc ça, c'était quelque chose d'assez flagrant, mais tu as aussi, à notre niveau, tu peux aussi avoir des dépendances de courants de pensée, des dépendances de ton propre milieu. Donc, à un moment donné, tu précises d'où tu parles, en fait. C'est-à-dire, moi j'ai tel mode de vie qui me sensibilise plus facilement à ça, je suis de tel milieu où on a telle biographie qui fait qu'on est plus sensible et qu'on aura tendance à voir les choses comme ça. C'est notre vérité, mais ce n'est pas une vérité ex cathedra, homogène, universelle. Je pense qu'il faut avoir la modestie aussi de réaliser ça, de se contextualiser en quelque sorte. Et de tenir compte des affects, parce qu'en en fait, il y a des situations où tu as beau dire c'est A plus B, tu as l'impression que tu vois bien A plus B, mais tu as quelqu'un qui a tellement été blessé par B qu'il ne voit que A, parce qu'il n'aura envie de voir que A. Et aujourd'hui, dans la profusion de données qu'il y a avec les réseaux sociaux et tous les moyens qu'on a d'avoir des données surtout de partout, c'est très facile de conforter son point de vue avant tout et de ne pas recouper. Et ça, je trouve que cette règle d'or qui était quand même exprimée par la formule un peu, comment dire, basique, recoupe coco, en fait, elle est toujours vraie et il faut régulièrement la remettre sur la table en fonction des nouvelles techniques, des nouveaux contextes. On le fait très peu aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, tu sens qu'il y a des groupes... des groupes affinitaires, des tribus, dans le sens du temps des tribus de Michel Maffezoli, là, il est souvent critiqué, Maffezoli, mais en tout cas, ce bouquin-là, Le temps des tribus, je trouve qu'il disait bien les choses, des tribus d'affect qui émergent de la base comme ça. C'est plus seulement. Ça aussi, le modèle médiatique, il a changé. Parce qu'avant, on disait c'était la piqûre hypodermique, le média, il formate les esprits. Maintenant, si on regarde bien, on voit que le média fait l'opinion, mais l'opinion fait le média aussi. C'est beaucoup plus dialectique que ça. Et donc, de pouvoir, cette profusion de données, effectivement, prendre celles qui t'intéressent, mais les recouper, est-ce capable de penser contre soi, c'est-à-dire de recouper les données pour plus de fiabilité au-delà de ce qu'on a envie d'entendre, de ce qu'on a envie de lire. Si on veut de l'information, il faut aller au-delà de ses affects, si on ne veut pas être dupe, quoi. Ouais, c'est un peu, en simplifiant, c'est un peu à ce stade que je suis là, à l'heure actuelle, de cette expérience, à grands traits, quoi.
Ce jour-là,
voyage chez Zinzine sur Erdiwa 107.5.
A brand new start.